Amis de YouTube, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes dans la matinée Etienne sur Twitch en direct tous les matins. N'hésitez pas à venir nous voir. Et de temps en temps, on vous en met aussi pour vous de l'actu. Tenez, on avait décidé avec les amis là de vous parler ce lundi matin des grands enseignements du premier tour des municipales. On va servir beaucoup du Parisien ce matin pour parler des municipales parce que leur dossier est comme en sommaire, est très gros, il est très complet. Et donc, quelles sont les leçons? Sachez qu'on a fait une spéciale sur cette chaîne Twitch hier, donc on a déjà dit beaucoup de choses, mais tout le monde n'était pas là hier soir. Peut-être qu'on peut commencer par l'édito. L'édito, l'article où un journaliste donne son avis, de Nicolas Charbonneau, directeur des rédactions dans Le Parisien, qui est à gauche. Alors, c'est un édito, c'est une analyse qui n'engage que lui, vous n'êtes pas obligé de le partager. Hein. Vous pouvez aussi être d'accord. Rien n'est interdit ici. Un tournant. Tournant, c'est fort. À tous ceux qui pensaient qu'en 2024, les résultats des dissolutions étaient un accident dans l'histoire politique de la 5ème République, ce premier tour des municipales confirme au contraire l'effondrement du bloc central. Ce qu'on appelle la polarisation du paysage politique français, l'émiettement du paysage politique français, non plus avec deux gros blocs qui s'affrontent gauche-droite pour faire simple, mais plusieurs pôles et qui rendent du coup très difficile de trouver une majorité pour soutenir un gouvernement. Eh bien, Nicolas Charbonneau nous dit, ça n'était pas un accident. Ça se confirme. Ce premier tour confirme l'effondrement du bloc central et la progression des partis extrémistes, désormais très bien implantés à l'échelle locale. Vous notez, parti extrémiste, que Nicolas Charbonneau met donc dans la catégorie parti extrémiste le RN, extrême droite, et LFI, extrême gauche, puisque le ministère de l'Intérieur, récemment, avant ses élections, a décidé de classer désormais LFI à l'extrême gauche. Il y a un débat là-dessus. Et ça a été validé par le Conseil d'État. Et du coup, le Parisien s'aligne sur ça. Je vous explique un petit peu le pourquoi du comment de retrouver l'extrême gauche à propos de LFI. Le RN et ses alliés, donc l'UDR notamment, l'emporte ou arrive en tête dans des villes comme Perpignan, Nice ou Toulon, quand de son côté, LFI réalise de très forts scores et crée la surprise dans des communes comme Roubaix, Lille ou Toulouse. Chacun de ces deux partis, quels que soient les résultats du second tour, fera son entrée en nombre dans les conseils municipaux. Parmi ceux qui tirent leur épingle du jour, on l'a vu hier soir, de ce premier tour, effectivement, il y a le RN, qui n'a jamais été un parti très implanté au niveau local. Il n'y a pas beaucoup, au regard du nombre d'électeurs qui votent pour le RN aux élections nationales, il n'y a pas beaucoup de maires RN en France. Et LFI, qui a longtemps été un parti qui a ignoré, en fait, les municipales, a changé de stratégie, a décidé de faire campagne pour ces municipales. On peut estimer, s'accorde à dire la plupart des observateurs, que ces deux partis tirent plutôt leur épingle du jeu. Le RN et LFI ont fait de bonnes performances à ce scrutin. Il y a donc, estime le journaliste Nicolas Charbonneau, une prime à la radicalisation, au discours, au programme de rupture et la confirmation d'une France qui oscille entre les extrêmes, une valse de laquelle les partis traditionnels historiques, les fameux partis de gouvernement, semblent exclus. À part du côté d'Édouard Philippe, seule personnalité à tirer son épingle du jeu, ou plutôt rassurée par ce projet. Pourquoi Édouard Philippe? Parce qu'il avait très peur d'être battu au Havre et de perdre la mairie du Havre, et il avait dit, si je perds la mairie, j'irai pas à la présidentielle. Les discours et les commentaires étaient lugubres hier soir, du côté donc des partis dits de gouvernement. Bruno Retailleau d'abord pour LR, puis Olivier Faure pour le PS avait la voix blanche et le ton funeste de chefs de parti qui n'ont pas l'air de croire eux-mêmes en leur chance de second tour. Quant aux macronistes et ceux qui pensent depuis toujours faire barrage aux extrêmes, ils étaient aux abonnés absents. Le macronisme municipal, supposé qu'il existait un jour, est totalement défait. C'est moi qui le dis ça. La participation, enfin, ça c'est un sujet. On a longuement parlé hier soir, on va en reparler ce matin. La participation est très faible. C'est la participation la plus faible à une élection municipale depuis 1958. Si on met de côté, il faut mettre de côté le scrutin de 2020 qui était frappé par la crise sanitaire. Donc le scrutin de 2020 mis à part, qu'on peut pas comparer à un autre scrutin pour des raisons évidentes. Le scrutin d'hier, le premier tour, c'est la participation la plus faible de l'histoire de la 5ème République. Ça pose plein de questions sur l'attractivité du paysage politique, sur le fossé grandissant entre les Français et les politiques, et la politique. Il y a aussi des questions sur le fait qu'il y a de plus en plus de villes où il n'y a qu'une seule liste. Donc ça, c'est un vrai sujet. Disons que cette défiance grandissante des Français vis-à-vis du politique, qui est installée depuis un moment déjà, elle se poursuit. Elle grandit. La participation, enfin, bien faible pour une élection censée motiver les Français, ne dit rien de bon de ce que feront nos concitoyens dimanche prochain et plus loin lors de la présidentielle dans un an. Je vous lis un petit peu et j'enchaîne avec ça. C'était juste l'édito, hein, c'est rien du tout. Hein. Et on va lire après ce papier sur les grands enseignements du scrutin et notamment, vous me demandiez les chiffres sur l'abstention, ils sont là. Voilà, et l'analyse d'un politologue qui est assez brillant qui s'appelle Pascal Perrillon. 70% des communes avaient une liste unique, ça explique beaucoup la participation. 68%, John, pour être précis, de communes avaient une liste unique. Et ça a sûrement impacté la participation. Ouais. On continue. L'article général sur les grands enseignements du Parisien, le voici. Il est signé Marcello Westfred. Une semaine de suspense et de tractation, de suspense. Pourquoi une semaine? Parce que dans une semaine, dans 6 jours, il y a le deuxième tour. Le scrutin marqué par une faible mobilisation, premier enseignement, a permis au RN et à LFI d'afficher les victoires, deuxième enseignement, mais les jeux restent ouverts et dépendront des alliances et retraits décidés d'ici à mardi. À un an de la présidentielle, le premier tour des municipales ressemble fort à un tour de chauffe avant la grande explication nationale. Quelqu'un disait très en colère tout à l'heure en disant « Ah, je comprends pas, on parle toujours d'enjeu national pour les municipales, mais c'est tellement... Oui, je suis très en colère, c'est débile, c'est stupide, pourquoi vous faites ça ?» Mais bien sûr qu'il y a une dimension nationale dans ce scrutin. Ce n'est pas une addition de scrutins municipaux. C'est les deux. C'est une élection locale qui a un retentissement national, surtout dans un pays comme la France qui est passionné par la politique. Ce dimanche soir, alors que des dépouillements livraient leur vérité, s'est dessiné un paysage politique éclaté, donc confirmation de ce paysage éclaté, confirmant le cycle ouvert par la dissolution, avec des extrêmes en dynamique dans les centres urbains, une participation nationale basse. Notez qu'à Paris, la participation était forte. Fin de l'ère Hidalgo, sans doute, vrai enjeu, vrai suspense. Jordan Bardella, patron du RN, a pris le premier la parole hier soir pour saluer de premières victoires à Perpignan, où Louis Alliot a été réélu dès le premier tour. Beaucaire, Fréjus, le changement commence dans 7 jours à Tonnet, l'eurodéputé, qui a mis en avant la réduction des impôts et de la bureaucratie, a tendu la main aux listes de droite sincères. Bon, c'est les éléments de langage. Je ne vais pas vous lire tous les éléments de langage des poétiques ce matin, on va pas en finir. La percée de Franck Alizio à Marseille, candidat RN, qui affrontera le maire sortant PS, Benoît Paillon, a donné du baume au cœur au camp RN. Le vrai gros truc pour le RN dans ces municipales, ça aurait été de faire tomber Marseille. Le RN progresse, certes, au niveau municipal, mais ils partent de tellement loin. Ils sont tellement peu présents au niveau de local, le RN. La plus grosse ville qu'ils avaient, c'était Perpignan. Qu'il y a une progression, mais ils partent de loin. Mais le vrai truc, le vrai choc, ça aurait été qu'ils gagnent Marseille. C'est pas terminé, il y a un second tour. Mais je ne suis pas sûr que Franck Alizio soit vraiment en situation de force pour gagner Marseille. Je peux me tromper, on verra dimanche prochain. En tout cas, ce sera vraiment une des attentes fortes dimanche prochain. Est-ce que le RN peut prendre Marseille. On fera une soirée spéciale, bien sûr, dimanche prochain, ici. Tout comme la première place d'Éric Ciotti, alors qu'il n'est pas RN, qui est un allié, le président du DR, qui est largement en tête à Nice, devant Christian Estrosi. Là, pour le coup, c'est une bonne nouvelle, non pas pour le RN, mais pour l'extrême droite, puisque Monsieur Ciotti n'est pas RN. C'est un allié de l'UDR. Ensuite, c'est Manuel Bompard pour LFI qui s'est exprimé hier soir depuis le QG de LFI. Il a vanté une progression remarquable, assurant que la victoire est à portée de main dans de nombreuses communes. Oui, c'est vrai aussi, comme le RN, LFI progresse. Mais comme le RN, LFI était très peu implanté au niveau municipal. Donc ça part de très loin aussi. Mais LFI progresse, et du côté des socialistes, je pense qu'on ne s'attendait pas à d'aussi bons résultats de LFI. Malgré une campagne mouvementée où le parti a été attaqué pour ses liens avec la Jeune Garde, après la mort du militant nationaliste Quentin de Ranc, la mouvance de Jean-Luc Mélenchon a néanmoins réussi à élargir son socle dans deux grande ville. Roubaix, par exemple. Roubaix, très bon score. Où le député LFI, David Guiraud, manque de peu une élection dès le premier tour. À Lille, la candidate LFI, Lawaria Hadouche, est au coude à coude avec le PS, représenté par Arnaud Deslandes. À Toulouse, bon résultat pour LFI aussi, où le candidat François Picmal a fait un score historique. Idem à Saint-Denis, avec Bali Bagayoko. Ces dernières semaines, Jean-Luc Mélenchon avait averti que ces élections serviraient de rampe de lancement pour 2027. Pardon, hein, je reviens à la personne tout à l'heure qui était un peu en mode en colère. Oui, pourquoi vous parlez de dimension nationale de ces élections municipales? C'est un non-sens. Jean-Luc Mélenchon, deux points, ces élections serviraient de rampe de lancement pour 2027. Si ça, c'est pas une élection à dimension nationale. Du côté du bloc central maintenant, les visages étaient plus tendus. Tu m'étonnes. Même si Édouard Philippe, qui avait lié son destin présidentiel à ce scrutin, a réussi finalement à tirer son épingle du jeu, il était annoncé comme perdant face aux communistes et finalement, il se retrouve en triangulaire dimanche prochain et il peut garder la ville. À suivre. Autre présidentiable qui jouait gros, le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, dont je ne vous ai pas parlé hier soir, qui a annoncé sa victoire dès le premier tour à Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord. Soulagement. Pour les partis traditionnels comme les Républicains, l'entre-deux-tours s'annonce complexe avec la question des alliances à trancher. La droite fait mieux que résister, elle se renforce, estime Bruno Retailleau. De son côté, le PS va essayer de garder ses fiefs dans la capitale. Emmanuel Grégoire, donc issu de l'ancienne équipe municipale d'Anne Hidalgo, s'est félicité que les Parisiennes et les Parisiens nous aient placé largement en tête de ce premier tour. On se penchera sur Paris tout à l'heure, mais c'est vrai que pour Emmanuel Grégoire, le score du premier tour est plutôt un bon résultat. Dati, en revanche, est déçu par son score. Quant au socialiste François Cuyant, maire de Brest depuis 2001, il est devancé par la droite et risque sur le papier d'avoir besoin d'une alliance avec LFI pour son éventuelle réélection. Alors, là on en vient aux alliances. Qu'est-ce qu'a dit Olivier Faure, le patron du PS? Aucune alliance nationale avec LFI, vous savez, contre les socialistes. Et LFI, en ce moment, c'est tendu. Enfin, c'est tendu depuis un moment, mais c'est tendu. Aucune alliance nationale. Nationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau local, on sait qu'il y aura des alliances au niveau local entre des candidats socialistes et LFI. Ils font ce qu'ils veulent au niveau local. Mais au niveau national, il n'y a pas d'accord national PS-LFI. Alors, d'ailleurs, le Parisien pose la question, est-ce que sur le terrain, les vérités du dimanche seront celles des prochains jours? S'ouvre maintenant, alors ça c'est très intéressant, qu'est-ce qui va se passer? Tractation, discussion, négociation. S'ouvre en effet une séquence où chaque heure va compter jusqu'au dépôt des listes du second tour, mardi en fin d'après-midi, 17-18h. Donc là, quelles alliances pour le second tour? Il y a beaucoup de résultats au second tour qui vont dépendre des alliances qui sont en train de se jouer en ce moment. Ça dort pas beaucoup dans les états-majors politiques. Hein. Je vous rappelle que toutes les listes qui ont plus de 10% peuvent se maintenir, comme ça qu'on peut avoir des triangulaires, des cadres angulaires. Est-ce que l'union des droites sera plus forte que les consignes d'appareil? Est-ce que les électeurs de gauche feront barrage ensemble malgré l'appel des socialistes au niveau national à bannir LFI? À Marseille, par exemple, le candidat LFI, Sébastien Delogu, a proposé un front antifasciste à Benoît Paillon pour battre le RN, une sorte de fusion technique. Tandis que le député RN Sébastien Chenu a déjà dénoncé, lui, des magouilles, des tambouilles, des bidouilles. Ce dimanche soir, les grandes manœuvres pré-présidentielles ont commencé. Voilà. C'est un article qui, en trois colonnes, nous donne l'essentiel de ce qui s'est passé hier soir. Alors, bougez pas, parce qu'après, regardez-moi ça, il y a 17 pages dans Le Parisien ce matin. Donc là, je vous ai donné l'essentiel, mais après, on va rentrer un petit peu dans le détail. J'ai un gros sommaire. J'ai un gros dossier. Je reviens un peu là sur l'abstention. Regardez l'abstention, page 3 dans Le Parisien là. On est entre 42 et 44% selon Le Parisien ce matin. C'est 6 à 8 points de plus d'abstention qu'en 2014. On va mettre 2020 de côté, c'était la crise sanitaire. Hein. Je vous rappelle que c'est la plus forte abstention municipale hors 2020 Covid depuis le début de la 5ème République. Pour le politologue Romain Pasquier, ce manque d'engouement des Français pour la politique n'a rien d'étonnant. On voit depuis de nombreuses années une baisse de la participation aux élections locales. D'abord cette année, un changement de mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants. Pour la première fois, dans les communes en dessous de 1000 habitants, on ne pouvait plus panacher. On ne pouvait plus, non pas aller prendre un mélange de bière et de limonade au bar, mais on ne pouvait plus rayer certains noms des listes. Avant, on pouvait dans les petites villes, les petites communes. Tout le monde se connaît là-bas. Oh, le José, là, qui démarre sa voiture à 4h du matin pour aller bosser, là, qui réveille toute ma famille. Je vais pas voter sur lui, sur la liste. Je le raye. Oh, la Julie, là, la boulangère. Jamais un sourire, celle-là. Elle veut être élue municipale. Je la raye. C'est comme ça dans les petites villes. Bon, bah, c'était interdit maintenant. On pouvait plus faire ça. On pouvait plus panacher. Et quand il y avait qu'une seule liste qu'on pouvait panacher, du coup, les gens se disent, ah, bon, moi, je veux pas aller voter, je veux pas donner ma voix aux autres, quoi. Donc, le système de panachage a été remplacé par un scrutin de liste paritaire avec une alternance homme-femme qui a rendu plus compliqué la constitution des listes. Donc, dans 23 000 communes sur 34 000, il n'y avait qu'une seule liste, 68% des listes. Alors évidemment, c'est pas très motivant. Se déplacer est donc moins motivant s'il n'y a pas d'enjeu, résume Mathieu Gallard, le sondeur. Là en revanche, où il y avait du suspense comme à Paris, la participation était forte. D'après lui, la guerre en Iran n'a pas aidé non plus en occupant les principaux titres d'actualité, c'est pas faux. Autre aspect sur lequel insiste le politologue Christophe Boutin, la perte de pouvoir des maires aussi. Le développement de l'intercommunalité a conduit à des transferts de compétences au détriment des mairies. Depuis la dissolution de l'Assemblée, le climat est aussi très particulier, il y a un tel spectacle que les Français peuvent se désintéresser de la politique et des élections, veut-il croire, le spectacle de l'Assemblée depuis la dissolution, vous le savez, empêchant un possible sursaut de participation au second tour le 22 mars, on verra bien. Vous voyez, il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer cette forte abstention. Il n'y a pas que le spectacle parfois décevant de la politique. Voter sans choix, c'est pas vraiment un vote, ouais. Oui, c'est pas très enthousiasmant, mais à un moment, les gens qui dans un village disent « Ah là, il n'y a qu'une liste », créez votre liste, les gars. Les mecs sur la liste, ils vont prendre de leur temps pour faire campagne, pour diriger la ville après, le petit village, c'est du temps, c'est quasiment du bénévolat, hein, ça apporte que dalle. C'est des soucis, c'est des risques même juridiques. Alors, c'est bien beau de dire « Ah, mais il n'y a qu'une liste ». Bah oui, mais oui, bah, dans ce cas, bah oui, faites-en une autre, les gars. C'est ça aussi le problème. Donc je comprends bien que ce soit pas bien enthousiasmant, mais le sujet, c'est ça. Tiens, d'ailleurs, il y a une analyse de Pascal Perrineau sur l'abstention. Pour Pascal Perrineau, la participation en baisse, donc ça, c'est autre chose, c'est pas l'histoire des listes uniques, c'est aussi confirme le rejet des Français pour la classe politique. Bon, on a l'impression qu'on entend ça depuis toujours, mais disons que ça a tendance à augmenter. Alors, est-ce que cette abstention était prévisible, demande Le Parisien ? La réponse du politologue, c'est que la scène municipale est une scène politique qui désormais, elle aussi, est touchée par la fatigue démocratique. La participation chute régulièrement, depuis un moment déjà, en dépit de l'attachement que les Français ont pour leur maire. Est-ce que le changement de mode de scrutin, on peut être la raison, vous savez, l'histoire du panachage, là ? C'est un aspect technique qui n'est pas à négliger. Le fait de supprimer le panachage pour les communes de moins de 1000 habitants a donné l'impression aux gens qu'ils ne pouvaient plus choisir du tout. Et cela a dû renforcer la proportion des Français qui sont détachés du scrutin en disant que c'était plus la peine de se déplacer. Est-ce que c'est la conséquence de l'instabilité politique qu'on connaît en France depuis 2 ans ? Absolument, dit-il. Ce résultat est aussi accentué par l'image délétère que le personnel politique a pu donner depuis 2022, et surtout après dissolution de juin 2024. Oui, c'est un enfer de conseiller municipal, oui. Alan Bass nous dit dans le chat, ma mère a été conseillère municipale dans une petite commune, 3000 habitants. Franchement, c'était une galère sans nom, elle a perdu tous ses amis à cause de son investissement et de sa droiture. C'est un enfer, hein ? Les Français assistent à une espèce d'état d'immobilisme dans lequel la politique et la représentation politique semblent stagner. Alors, question à Pascal Perrineau. LFI et le RN réalisent de bons résultats. Est-ce que c'est la prime aux extrêmes ? Pas forcément, répond-il. Je note que LFI est assez fort dans des grandes villes universitaires et celles de quartiers où la mobilisation de la jeunesse a pu être payante. Pour le RN, ces résultats sont la confirmation d'une stratégie d'ancrage local entamée depuis de nombreuses années. Donc, Pascal Perrineau dit... Plus qu'une prime aux extrêmes, c'est peut-être le travail de ces deux partis au niveau local, qui est assez nouveau pour ces deux partis, surtout pour LFI, qui semble avoir... payé. LFI qui n'a visiblement pas été pénalisé par les polémiques de ces dernières semaines, effectivement, c'est la démonstration que ce discours radical est payant. Alors, question intéressante sur Paris aussi, ville vers laquelle tous les yeux sont tournés. À Paris, Emmanuel Grégoire, donc majorité sortante, est loin devant Rachida Dati. Est-ce que ça va être compliqué pour elle ? C'est mon sentiment. Et le politologue répond, c'est une bonne performance pour Grégoire, Emmanuel Grégoire, et une mauvaise performance, effectivement, pour Rachida Dati. Mais si on fait le total des voix de Dati, Bournazel et Knafo, on voit que Grégoire n'est pas complètement à l'abri. Et que va faire Madame Chikirou, qui elle aussi est en capacité de se maintenir, LFI ? Si Rachida Dati arrive à fédérer son camp au sens large, c'est-à-dire à se poser en héritière du bloc central, sauf erreur de ma part, Bournazel, le bloc central, qui peut se maintenir au deuxième tour, et Dati ne s'entendent pas du tout. Moi, je veux bien croire que Dati va réussir à faire un accord avec Bournazel, c'est-à-dire que le patron de Bournazel, Edouard Philippe, lui, il voudrait que Bournazel fasse alliance avec Dati. Mais Dati et Bournazel s'entendent pas du tout. Donc déjà, premier défi. Donc se poser en héritière du bloc central et à faire un appel à l'électorat CNAFO, sans avoir à passer d'accord avec elle. Dans ce cas-là, elle peut revenir dans le jeu. Elle n'aura pas tâche facile. C'est très compliqué pour Dati, parce que d'abord, elle doit se réconcilier avec Bournazel, et ensuite, elle doit séduire les électeurs de CNAFO, a priori, sans faire d'alliance avec CNAFO. CNAFO reconquête le parti de Zemmour, l'extrême droite. Pour Dati, c'est quasiment impossible de passer un accord avec CNAFO, que CNAFO aimerait beaucoup. Impossible. Une alliance droite-extrême droite dans la plus grosse ville de France, c'est un big bang politique. Ça veut dire, bon, bah, 2027, allons-y, quoi. C'est très compliqué. Après, c'est comme toute personnalité politique, Dati peut nous surprendre, et on peut apprendre dans quelques heures que Dati et CNAFO se sont tapés dans la main et qu'il y a une alliance droite-extrême droite à Paris. Ce sera un coup de tonnerre, je n'y crois pas, mais c'est possible. Alors, Olivier Faure, le patron du PS, a dit qu'après ce premier tour, le macronisme n'existe plus. Est-ce qu'il a raison ? Il n'a jamais vraiment beaucoup existé, estime le politologue, tout simplement parce qu'Emmanuel Macron s'est jamais vraiment intéressé à ses élections locales. Gabriel Attal s'est réjoui dimanche d'avoir pu faire élire une centaine de maires sur 35 000 communes. Ça n'est vraiment pas grand-chose. Première analyse de Pascal Perrineau, c'est assez intéressant. Voilà pour une analyse dans les grandes lignes. Amis YouTube, vous avez l'essentiel, mais pour plus, vous avez compris, il faut venir dans la matinée Étienne ou avoir le replay de la matinée Étienne sur YouTube, parce que c'est là qu'on prend son temps, 3 heures. Amis YouTube, merci, n'hésitez pas, comme on dit, à mettre un like, un pouce, et je sais plus quoi, le turbo bidule 2000, 27 2000 boost, bonus. C'est comment déjà sur YouTube ? Le boost.